Vous écoutez France Culture.
Sarah Petitbon a signé le journal. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à toutes et à tous dans les coulisses de l'information avec ce matin au poste de pilotage Vincent Abouchard, Jacques Hézubert et Mathias Mégy. C'est le secret des sources sur France Culture jusqu'à 9h et sur franceculture.fr pour les commentaires, la réécoute et le téléchargement. C'est le feuilleton politique de la semaine écoulée, le report de la loi sur la famille, puis l'annonce de son retour en pièces détachées. Tout cela a provoqué un déluge de commentaires dans la presse. Bien sûr, on y voit d'abord un nouvel épisode du feuilleton de la cacophonie gouvernementale et aussi un indice de l'influence d'un mouvement politique proche du Tea Party américain, la Manif pour tous. Mais on peut aussi s'interroger sur le rôle joué par les médias dans cette affaire. N'auraient-ils pas été les instruments qui ont contribué à abattre la loi sur la famille? Pour en débattre avec nous ce matin, Cécile Prieur, rédactrice en chef au Monde, Thierry Arnaud, chef du service politique de BFM Télé, et Marine Lamoureux, chargée des questions de famille à La Croix. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également aujourd'hui, l'une de nos observatrices des médias dans le secret des sources, Isabelle Vera-Masson, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et bien sûr, l'homme du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour Éric.
Bonjour.
Le projet de loi sur la famille reporté au calendrier grec après le succès de la manif pour tous organisée hier, le gouvernement a annoncé qu'il ne présenterait pas de texte cette année. Les députés socialistes et le ministre de l'Intérieur Manuel Valls n'étaient pas d'accord entre eux sur le contenu de la loi.
La grève des dentistes. Reculade, échec, défaite pour le gouvernement, victoire, succès, triomphe pour la manif pour tous. À l'image des titres du journal de TF1 lundi soir, les médias ont pour la plupart résumé ce report de la loi sur la famille à ces quelques mots-clés. Question néanmoins, je la posais à l'instant, la presse n'a-t-elle pas contribué à créer les conditions de ce report? Cécile Prieur, Marine Lamoureux, Thierry Arnaud, d'abord en accordant une importance médiatique considérable en termes de couverture à ces défilés de la manif pour tous. Cécile Prieur?
Évidemment que non pour nous, puisque en réalité, ce défilé de la manif pour tous est intervenu au terme d'une séquence qui a commencé mi-janvier, il me semble, avec le premier défilé contre un amendement de la loi sur l'avortement. Ensuite, il y a eu cette manifestation qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui s'appelait Jour de colère, qui a surpris par l'ampleur de sa mobilisation. Et ensuite, il faut voir que la manif pour tous est réunie après la séquence d'une semaine sur la supposée théorie du genre enseignée à l'école, hein, avec les fameux ABC de l'égalité, et qu'on était en plein dans cette polémique. Est-ce que l'éducation nationale était dans un rôle ou pas? Est-ce qu'il y avait une manipulation médiatique qui a abouti au rejet, à cette fameuse journée de rejet de l'école? Et donc c'est dans ce contexte que la manif pour tous a pu mobiliser, et c'est aussi pour ça qu'il y a une couverture médiatique aussi importante. Par ailleurs, c'est l'acte 2 de la bataille de l'année dernière, et donc voilà pourquoi les médias étaient aussi présents.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire d'élargir encore la séquence jusqu'à l'année écoulée, et si on la prend sur l'année écoulée, il y a eu de fait une mobilisation importante, démocratiquement légitime, sincère de la part des manifestants. La question n'est pas là, évidemment, mais on n'est pas non plus sur l'ampleur des manifestations type loi Fallou, école libre, loi de Vaquet, etc. Est-ce qu'encore une fois, les médias n'ont pas survalorisé ces manifestations et lui ont apporté un poids politique, une influence politique presque excessive, j'allais dire?
Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette manifestation, au sens propre du terme. Il y a quand même 80 000 personnes au minimum qui descendent dans la rue pour un sujet dont on nous assure par ailleurs que c'est un sujet virtuel, puisque le gouvernement nous promet qu'il n'y aura pas de PMA dans le projet de loi, que la GPA, la gestation pour autrui, n'en a de toute manière jamais été question, que la théorie du genre, ça n'existe pas à l'école. Donc, c'est quand même un événement qui mérite une grande curiosité de la part des médias.
Mais ça ne fait pas un million de personnes dans la rue non plus. Je veux dire, c'est une question juste de, je pose juste la question de la proportion, de l'échelle.
Oui, mais c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue, donc ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est effectivement pas un million de personnes dans la rue. Mais de toute façon, c'est lié. Vous faisiez le rapprochement tout à l'heure. C'est évidemment un mouvement qui démarre avec la loi sur le mariage pour tous. La manif n'a pas la même ampleur. Mais au fond, et d'ailleurs, c'est la conviction de ceux qui entourent François Hollande, c'est la conviction de François Hollande lui-même, c'est que ce qui se passe dans la rue ce dimanche 2 février, c'est aussi en quelque sorte la troisième mi-temps du mariage pour tous. Le président de la République considère à ce stade que les gens manifestent pour dire qu'ils n'ont toujours pas accepté cette loi du mariage pour tous. Et c'est aussi une des raisons qui va le pousser le lendemain à retirer cette loi, parce qu'il considère que à un moment donné, les réformes de société, on ne peut pas toutes les faire en même temps. Et le message que lui délivre la rue ce jour-là, en tout cas lui, il va l'interpréter comme tel, c'est que la réforme précédente n'est pas digérée par cette partie de l'opinion qui lui était résolument hostile.
Mais on pourrait opposer l'argument qu'en face, il y a une forme de, si ce n'est de majorité, en tout cas de masse silencieuse qui, elle, on trouve ça plutôt pas mal, ou en tout cas n'a pas un avis très tranché sur le sujet, et qu'on n'entend pas nécessairement dans les médias, vous voyez ce que je veux dire?
Mais on peut, alors d'abord on l'entend dans les médias, je veux dire, moi je peux parler pour ce qui concerne de la façon dont BFM TV a couvert cette manifestation, pour les raisons que je viens de vous donner, on lui a accordé une grande importance à l'antenne, mais on a fait parler autant ceux qui étaient dans le camp adverse, si l'on peut dire, chez nous, en plateau, on a reçu des élus socialistes, on a reçu des représentants de l'inter-LGBT, on a eu un historien, on a eu un sociologue, moi qui suis éditorialiste, j'étais en plateau, donc on ne s'est pas contenté de montrer la manif et de tendre le micro à ceux qui étaient là. On a contextualisé et on a fait parler de manière équitable ceux qui considéraient qu'il fallait manifester et ceux qui considéraient qu'il n'y avait pas de sujet, ceux qui étaient contre et même ceux qui considéraient que la procréation médicalement assistée était une bonne idée.
Marine Lamoureux, la Croix, pour la Croix, c'est évidemment un sujet important, les questions de famille. Est-ce qu'il y a eu, comme ça, vu de chez vous, une survalorisation ou pas?
Mais je crois que surtout, il y avait une curiosité. C'est-à-dire, cette loi, elle a été votée en mai, elle est rentrée dans les mœurs, les couples ont commencé à se marier, il y a eu 7000 mariages entre personnes de même sexe. Donc, c'est plutôt une curiosité de se dire, qu'est-ce que devient ce mouvement de la manif pour tous? Est-ce qu'il peut exister au-delà du vote de la loi Taubira? Est-ce qu'il va s'effriter? Est-ce que ses leaders vont réussir à mobiliser à nouveau? Donc, évidemment, l'attention des médias, elle était focalisée aussi là-dessus. C'était la première manifestation. Alors, ils n'ont pas dit nationale, parce que déjà elle se déroulait à Lyon et à Paris, et qu'ensuite ils n'avaient pas, voilà, je pense qu'ils étaient prudents, ils ne savaient pas combien de personnes ils allaient réussir à mobiliser, mais c'était quand même après la séquence de 2013 la première manifestation de grande ampleur qu'ils organisaient, et donc évidemment l'attention était liée à ça. Effectivement, ils ont quand même relativement réussi leur pari.
Alors, dans la séquence de l'exposition médiatique de cette semaine, il faut qu'on s'arrête aussi sur la place importante accordée par les médias à la déclaration de Manuel Valls, j'allais dire à toute déclaration de Manuel Valls, on en parlait d'ailleurs ici même il y a un mois, et donc dans ce feuilleton de la semaine, le ministre de l'Intérieur a d'une certaine façon joué les artificiers lundi matin sur RTL au micro de Jean-Michel Apathy.
Le gouvernement a été particulièrement clair sur le fait qu'il n'y aurait ni la GPA, la gestation pour autrui, ni la PMA.
La ministre de la Famille était ici jeudi.
Médical.
Il n'a pas
assisté.
Dit que, par exemple, le gouvernement s'opposerait à un amendement parlementaire s'il était présenté dans
le gouvernement famille. S'opposera à des amendements parlementaires.
Introduisant
le président
la
de la République, le Premier ministre, les ministres en charge de ce dossier, y compris Mme Bertinotti, sont très clairs. Donc,
dites Manuel Valls, Dominique Bertinotti ne le disait pas jeudi matin.
Il n'y aura pas.
Mais vous le dites.
Il n'y aura pas dans la loi famille de PMA ou de GPA. Et le gouvernement s'opposera aux amendements sur ce sujet-là.
Quelques heures plus tard, la loi sur la famille était donc reportée. Dès que Manuel Valls s'exprime, et encore une fois, on en parlait ici même il y a un mois, y compris sur un domaine qui n'est pas de son ressort en tant que ministre de l'Intérieur, là c'est le cas avec la PMA ou la GPA, les médias lui accordent toujours un poids et une importance considérable. Donc dans le cas d'espèce, encore une fois, question sur l'éventuelle instrumentalisation, est-ce qu'ils ne font pas son jeu, c'est-à-dire son objectif qui est, en l'occurrence, on peut le penser, le report en effet de la loi.
Mais la loi n'est pas reportée. La loi n'est pas reportée parce que Manuel Valls s'exprime. Il faut bien comprendre quelle est la séquence de ce lundi matin. Première partie de l'équation, on vient de l'entendre, Manuel Valls s'exprime et il dit « Je vous annonce ou je vous confirme qu'il n'y aura pas de PMA et encore moins de GPA. Et s'il y a des amendements parlementaires, le gouvernement s'y opposera. » Donc il dit les choses sur la table. Au même moment, ou quasiment au même moment, il y a Bruno Le Roux, qui est le patron des députés socialistes, qui est l'invité d'une autre radio et qui lui dit en substance « Mais de quoi se mêle-t-il, Manuel Valls ? Moi, je suis le patron des députés socialistes. » Et je vous dis, si les députés socialistes ont envie de déposer des amendements sur la PMA, ils le feront. Et là, À l'Élysée, on se rend compte qu'on a à nouveau l'ébauche d'un couac, d'un gros problème de communication. Le ministre de l'Intérieur dit une chose, le patron des députés socialistes en dit une autre. On n'y comprend plus rien, donc il faut délivrer un message clair. Jean-Marc Ayrault vient déjeuner avec François Hollande, ils en parlent tous les deux, et le président décide à ce moment-là de retirer le projet de loi.
Cécile Brière, Le Monde...
Pardon, mais retirer le projet de loi, l'expression est impropre, mais de dire qu'il n'y aura pas de projet de
on
loi...
On gèle pour l'instant, et en tout cas pas de façon univoque et en un seul bloc.
Voilà, parce que d'ailleurs le projet de loi n'était pas écrit, il n'y avait pas encore de date. Voilà.
Cécile Brière, média instrumentalisé par Manuel Valls dans cette affaire, oui,
oui
non ?
Je pense que c'est plutôt une question politique, parce qu'en réalité, la majorité, le gouvernement a vu qu'il y avait un point de fixation qui était en train de se cristalliser autour de la manif pour tous dimanche, qu'on est dans un contexte électoral, il y a quand même les municipales qui arrivent en mars, qu'on ne savait pas ce qu'allait faire la manif pour tous, qui pouvait très bien recommencer à manifester d'ici un mois et demi ou deux. Donc il y a eu effectivement une rapidité, on peut considérer que c'est trop rapide, mais au début, peut-être une certaine habileté du président à essayer de tirer le tapis sous les pieds des manifestants en disant très bien, cette loi, pour des mauvaises raisons, puisqu'il n'y a pas ni PMA ni JPA à l'intérieur, vous la contestez, on la reporte. Le problème, c'est qu'en faisant ça, alors qu'il avait exactement fait la même chose sur les cotaxes, il a fait exactement la même chose sur les classes prépa, c'est-à-dire qu'il y a une habitude finalement, si ce n'est à céder à la rue, en tout cas à tenter d'étouffer les polémiques naissantes et les cristallisations de rue. Mais le problème, c'est qu'il a fortement déçu une partie de son électorat. Et donc là, on est sur comment sous-peser l'importance de ce qui s'est passé dimanche. Oui, c'est important, symboliquement, c'est l'acte 2, etc. Mais en même temps, derrière, il y a sans doute une majorité silencieuse qui approuvait plutôt la loi famille, qui par ailleurs était très 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 modeste, hein, puisque justement elle était grandement vidée de sa substance l'année dernière. Et on voit qu'il y a eu le backlash deux ou trois jours après, avec Jean-Marc Ayrault qui est revenu en disant « mais non, on n'abandonne rien », etc. Donc double couac, si je puis dire.
Alors j'aimerais connaître une première fois déjà le sentiment de notre observatrice extérieure, Isabelle Véramasson du CNRS. Dans ce type de dossier, est-ce que malgré tout les médias ne contribuent pas à hystériser le débat, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas à créer les conditions d'une impasse politique en accordant une importance réelle aux positions, y compris les plus radicales.
Oui, en tous les cas, pour répondre à ce que vous disiez, c'est vrai que, imaginons un monde sans BFM, avec une manif de 80 000 personnes qui se bat sur des fantasmes, puisqu'effectivement, il avait été répété plusieurs fois qu'il n'y aurait pas de GPA, qu'il n'y aurait pas de PMA, etc. Imaginons donc ce monde, je pense qu'il y aurait eu 10 secondes dans un journal télévisé de la soirée, avec peut-être une interview, etc. Et on aurait oublié le lendemain cette scène manif. Même si
je pense que vous n'avez pas bien regardé les journaux de 20h ce soir-là.
Laissons Isabelle Véramasson développer son argument et après je vous donne évidemment la parole.
Donc je pense effectivement qu'étant donné le nombre, étant donné le contenu, effectivement je trouve assez intéressant le fait que ces gens se manifestent sur une angoisse, qui est d'ailleurs ancienne, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs étapes à cette angoisse et elle est fondée puisque je pense que le mariage pour tous n'est pas rien. C'est un vrai changement anthropologique de taille et donc c'est pas des gens complètement délirants, ils sont face à quelque chose qui les étonne, qui les bouleverse. On voit bien le clivage dans les derniers sondages, c'est véritablement un clivage catholique pratiquant et sans religion, donc c'est même pas le droite-gauche, même si on voit bien que la gauche suit plutôt le programme du Parti Socialiste. Mais donc il me semble tout de même qu'il y a là un focus sur une question qui ne méritait pas, me semble-t-il, une telle importance donnée par les chaînes d'information quotidienne.
Alors Thierry Arnoux, BFM TV, la réponse.
Bon, s'il y avait un monde sans BFM, d'abord il y aurait d'autres chaînes d'information. Ensuite, il y aurait toujours les réseaux sociaux. Il y aurait Facebook, il y aurait Twitter, il y aurait les journaux qui ont fait leur manchette le lendemain sur ce sujet-là. Et il y aurait les journaux de 20 heures qui, contrairement à ce que vous disiez, n'ont pas fait 10 secondes sur le sujet, mais en ont fait bien davantage. Et c'est un vrai sujet. Dire que les gens sont descendus dans la rue à cause de BFM et que le président a retiré son projet de loi ou a repoussé l'hypothèse d'un projet de loi à cause de BFM, c'est un peu caricatural.
Non, pas les gens ne sont pas descendus dans BFM. L'événement a pris une importance. Et puis quand je dis BFM, c'est les chaînes d'information continue.
J'ai bien compris.
Et avec l'importance que ça peut avoir sur les JT eux-mêmes, mais à une focalisation un peu excessive par rapport à l'événement.
Excusez-moi, si on élargit un tout petit peu le débat, oui. Moi, j'ai l'impression que la question qui est posée, c'est que, en gros, le raisonnement de Matignon et de l'Élysée est de dire qu'on justifie ce report parce qu'on est en présence d'une société française qui est trop crispée. C'est à peu près l'argumentaire qui a été développé. Donc il me semble que ce que dit Isabelle Véramasson d'une certaine façon, c'est est-ce que les médias n'ont pas une large responsabilité dans cette crispation, ou du moins dans l'accélération de cette crispation.
Alors d'abord, c'est pas exactement ça.
Thierry Arnoux et après Marine
Lamour. Préciser, on ne retire pas le projet de loi parce que la société est trop crispée. On retire le projet de loi, on le repousse parce qu'on constate que la société est tout crispée. Et encore une fois, je veux dire, cette crispation elle se manifeste de tas de façons et pas seulement dans la couverture des chaînes d'infos. Mais si la crispation existe, c'est notre boulot d'en rendre compte. Mais ensuite, il y a une deuxième partie, c'est qu'on repousse ce projet de loi et on l'enterre parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de répondre de manière organisée et disciplinée à cette crispation, parce qu'il y a des voix discordantes entre un ministre, entre un patron des députés, et qu'on se rend compte qu'il y a donc d'un côté la crispation et de l'autre un pouvoir faible, en tout cas pas très discipliné, pas très calé dans son message, dans sa réponse, et donc on enterre le sujet.
Marine Lamoureux, la Croix.
Je crois surtout qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il s'est passé quelque chose en France quand même depuis la question du mariage pour tous. Donc ce serait vraiment... Le rôle des journalistes, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans la société. Ce n'est pas du tout anodin. Il y a eu, disons, trois très, très grosses manifestations, qu'on le veuille ou non. Donc, le fait social, le fait politique, il est là. Donc, c'est pas, là, pour le coup, ce n'est vraiment pas une question, à mon avis, de chaîne continue. Cet événement, certes, il y avait, on peut dire 80, 100 000 manifestants, ce n'est pas énorme, mais ça s'adosse à cette actualité. Donc, le fait, il est là, il n'est pas créé par les journalistes.
Alors, il y a un autre élément dans cet échiquier médiatico-politique. D'ailleurs, vous l'évoquiez à l'instant, Thierry Arnaud, c'est on va dire, la gourmandise des médias vis-à-vis de toute forme d'embarras des politiques. Et cet embarras côté gouvernemental, on l'a bien perçu cette semaine. On va écouter successivement et brièvement la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, sur RMC et BFM Télé, mercredi matin, et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, sur France 2, mercredi soir.
C'est une décision de l'exécutif, bien
évidemment. Donc du président de la République.
Et du Premier ministre.
Et du Premier ministre.
Bien sûr.
Quand a-t-elle été prise ?
Lundi.
Elle a été prise lundi.
Ah bah, écoutez, officiellement...
Elle n'a pas été prise avant.
Alors, écoutez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, à titre personnel, j'ai été informée lundi.
Vous n'avez été informée que lundi?
Oui, parce que je pense qu'il faut retracer un petit peu le fil de l'histoire.
Je ne renoncerai pas aux réformes, y compris pour améliorer la vie des familles. Il y a des mesures concrètes qui sont à l'ordre du jour, que les parlementaires vont reprendre. Le gouvernement est tout à fait prêt à les examiner sans tarder. Après, il y a des questions plus complexes sur lesquelles il faut dépassionner et sortir surtout de tous les faux débats. On a dit par exemple qu'on voulait, à travers ce projet de loi, mettre en place la gestion pour autrui, la GPA. C'est absurde qu'on voulait mettre
les
en place...
Les mères porteuses.
Oui, on voulait mettre la théorie du genre à l'école. Que des mensonges qu'il faut absolument combattre. Je ne suis pas dupe, il y a des forces réactionnaires dans notre pays.
Dominique Bertinotti pédalant dans le « je ne savais pas », puis Jean-Marc Ayrault s'efforçant de rétro-pédaler dans le « on va le faire quand même ». Évidemment, c'est de bonne guerre de la part des journalistes toujours de pousser les hommes et les femmes politiques dans leur retranchement, c'est leur travail. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme de vacuité dans cet exercice qui est un peu facile, surtout avec ce gouvernement, parce qu'on est sûr de gagner à tous les coups quoi. Cécile Prieur, peut-être, Thierry Arnaud.
Le problème, c'est qu'on est sûr de gagner à tous les coups, justement. C'est-à-dire que sur ces questions-là, on voit que sur les questions économiques et sociales, la majorité tient à peu près, quoique on voit que la gauche de la gauche commence à se réveiller. Mais sur les questions sociétales, c'est le flou le plus complet. Enfin, on a un président de la République qui, alors on peut dire heureusement ou malheureusement, a fait cette réforme importante qui est le mariage pour tous. On a vu qu'il avait du mal à le porter, le débat, toute l'année dernière. Vous vous souvenez de cette déclaration qu'il avait faite devant les maires, où il leur avait plus ou moins dit que s'il pouvait se retirer en conscience, il n'avait pas envie de célébrer des mariages entre personnes du même sexe, avant de rétropédaler. Donc il n'y a jamais eu de portage politique au plus haut niveau de la loi sur le mariage pour tous, à part Christiane Taubira. Et en fait, dans la deuxième partie, c'est-à-dire est-ce que oui ou non on va faire la PMA, alors qu'il a été tranché que non, eh bien on voit qu'il y a toujours une minorité au sein du PS qui est pour, et on a une majorité, un gouvernement qui ne sait pas faire taire cette minorité ou en tout cas clarifier ses opinions. Et donc voilà, ça crée une cacophonie.
Mais encore une fois, cette focalisation médiatique sur les petits désaccords entre ministres, etc., est-ce que ça n'est pas un peu superficiel rapporté à l'enjeu de société majeur qu'il y a derrière? Parce que là, il y a des enjeux de société majeure, personne ne le conteste, il y a des désaccords d'ailleurs.
Moi, je ne souscris pas du tout à cette lecture. Vous parlez de... C'est pas superficiel. Je veux dire, quand on a un gouvernement et qu'on a une ministre de la Famille qui travaille depuis des mois sur un projet et qu'on lui tire le tapis sous les pieds sans la prévenir à l'avance et qu'on la mette devant le fait accompli, on n'est pas dans le superficiel. Quand vous avez un Premier ministre qui tient un discours auquel, franchement, on ne comprend pas grand-chose parce qu'on avait compris le samedi qu'il y avait un projet de loi en préparation, le lundi matin qu'il n'y en avait plus du tout, et puis quelques heures plus tard, il vient à la télévision nous expliquer qu'il n'y en a toujours pas, mais qu'il y en a un petit peu quand même. C'est notre boulot de journaliste que de pointer le doigt sur l'incohérence de ce message. Parce que si on suit le raisonnement que vous amorcez juste au bout, qu'est-ce que ça veut dire? À quel résultat on aboutit? Ça veut dire que quand Dominique Bertinotti se trouve dans cette situation, on ne dit rien parce qu'il ne faut pas la mettre dans une situation désagréable. Quand Jean-Marc Ayrault nous délivre un message auquel on ne comprend pas grand-chose, il ne faut pas le relever parce que le gouvernement est déjà dans la difficulté. Non, ce n'est pas notre boulot. Nous, on est là. Le journaliste, il est là pour raconter les choses et il est dans la position du sceptique. Il s'interroge et il regarde.
Je parle de proportion accordée à ce volet du sujet et à la proportion, on va dire, accordée au fond du sujet.
Encore une fois, pour moi, les deux se rejoignent. Que Dominique Bertinotti soit passé dans cette situation où que Jean-Marc Ayrault s'explique de la manière dont il vient s'expliquer, on n'est pas seulement dans l'anecdote. Ça nous dit quelque chose de profond et d'important sur la manière dont ce pays est gouverné.
Marine Lamoureux ?
Peut-être, si on doit faire amende honorable. Moi, je trouve que ce qui a manqué, c'est qu'on n'a finalement pas tellement dit ce que voulait faire le gouvernement sur les autres sujets. Alors, la PMA, la GPA, on avait bien compris. Par contre, il y avait pas mal de sujets dans ce projet de loi qui ne sont pas des sujets anodins, même si...
Sur la parentalité, la coparentalité, statut du beau-père, etc.
Ouais, ouais. Il y avait l'accès aux origines, l'adoption. C'est quand même... aujourd'hui, il y a 25 000 agréments des couples qui sont titulaires d'un agrément. On sait qu'il y a 700 bébés qui vont pouvoir être adoptés. Après, les adoptions, ce sont des adoptions d'enfants plus grands, qui éventuellement ont un handicap. Enfin, l'adoption est en train de changer complètement de visage. Il faut adapter les textes. Donc, c'est vrai que on l'a fait un peu peut-être trop en amont à la croix, parce qu'on pensait que ce projet de loi allait venir. Donc, on a fait des grands papiers expliquant les enjeux.
À l'automne, vous avez fait plein de grands papiers là-dessus, effectivement.
ça tombe un peu dans un trou, mais bon, je crois que peut-être ce qu'on a à faire maintenant, ce qui n'est pas évident à savoir, parce que évidemment, maintenant, ils vont changer leur fusil d'épaule. Les groupes de travail qui avaient été mobilisés sur ces sujets, leurs conclusions, on les commençait à les connaître, mais alors est-ce qu'il faut les publier si elles n'ont plus aucune suite dans les propositions de loi des parlementaires? Voilà, aujourd'hui on en est un peu là, et je pense que les gens sont sans doute curieux d'être informés sur et ces autres sujets concernant le divorce, concernant l'adoption, concernant l'accès aux origines. Qu'est-ce qui se passe?
Je voudrais qu'on reste encore un instant sur le traitement médiatique et Éric Chavroux avec vous, non pas tant d'ailleurs sur les images comme vous le faites régulièrement chaque semaine, mais davantage sur les mots qui ont été utilisés cette semaine. On a été dans un registre très simple, je l'évoquais d'ailleurs au début de l'émission, le registre, je ne sais pas si il faut dire sportif ou guerrier, mais on était là-dedans dans le vocabulaire.
Et vocabulaire binaire avec le recul ou la reculade d'après de très nombreux titres. L'esquive ajoute Le Monde quand Libération lui joue sur les mots en disant pourquoi Hollande s'est couché. En face, l'autre mot qui domine, c'est victoire, mais cette fois presque toujours avec des guillemets, sauf François Dorcival dans Valeurs Actuelles qui fait fi de ces guillemets et qui affirme la victoire pour tous. Alors, ce choix des mots et leur ponctuation, ça a interpellé l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi et trans, qui, avant la manif pour tous de dimanche, a demandé dans un communiqué à l'ensemble des journalistes, je cite, de faire son boulot, avec plusieurs recommandations qui ont été taxées d'ailleurs de militantisme par certains sur les réseaux sociaux. En fait, face à ce défi sémantique, il n'est pas question pour cette association de laisser une tribune libre à ses interlocuteurs et faire attention, par exemple, aux guillemets quand on parle de la théorie du genre, d'autant qu'au même moment, un journaliste de France Télévisions a révélé un document très élaboré de la Manif pour tous qui fournissait des éléments de langage aux manifestants pour répondre aux questions des journalistes.
Il y a la question des sigles aussi, on l'a bien vu, l'utilisation systématique de PMA et GPA. On peut s'interroger en termes sémantiques ou sémiotiques sur le recours systématique à ces sigles.
Ça s'est répété, ça s'est imposé finalement ces derniers mois dans les médias, des expressions souvent réduites à ces abréviations. On risque tout simplement d'en perdre la définition. Alors, on le reconnaît, le sigle c'est pratique pour un titre, pour un tweet, mais est-ce que le lecteur à qui on s'adresse, au final, n'en perd pas le sens, tout simplement. Et puis, il faut parler aussi de la dureté du processus, en quelque sorte, dans cet usage systématique des sigles. On adore ça en France, on en est champion, mais sur des sujets qui sont si incarnés, si sensibles, si humains, est-ce que ce n'est pas céder à la facilité? Est-ce que ce n'est pas aboutir, je vais être un peu provocant, mais presque à des quelques majuscules qui feraient penser à une grande assurance multinationale?
Fascination pour la petite bête qui dérange, on la retrouve sur Internet hein, aussi. Hein. Avec, par exemple, il y a eu pas mal d'encre qui a coulé sur ces tweets qui ont été retirés, c'est ça
C'est un beau fail, hein, on appelle ça dans le jargon, c'est un loupé pour parler français. Et repéré, ça s'est passé lundi vers 17h, c'est le PS qui tweete à propos d'un article qui explique l'importance de la loi famille et 8 minutes après, qui efface le tweet et l'article. Sûrement pour éviter de faire une différence, de se distinguer des nouvelles déclarations gouvernementales. Le problème, c'est qu'il y a un journaliste de France TV Info, Bastien Hugues, qui a eu le temps de se rendre compte de la manip, de mémoriser ce qui avait disparu, le transférer sur Twitter. Et du coup, plus de 250 personnes ont, elles, à leur tour, transféré aussi cette trouvaille.
Dans quelle mesure, et là je me tourne à nouveau vers Isabelle Verramasson, dans quelle mesure, c'était notre débat juste avant, là, la place accordée au feuilleton politique ne réduit pas mécaniquement quand même la place accordée dans les médias au sujet de fond, en l'occurrence ce sujet de société majeure qu'est la famille, sa définition, ses contours.
Je suis étonnée d'ailleurs que les médias ne fassent pas un peu plus d'auto-flagellation, enfin une critique, dans la mesure où quand même le nombre de ces manifestants ne sont pas au courant apparemment de la véritable, du contenu de la politique de la famille. Tout est confondu. Par exemple, la PMA. Moi, je trouve dans les journaux et dans les sondages, êtes-vous favorable à la PMA? Qu'est-ce que ça veut dire être favorable à la PMA? La PMA existe depuis des années en France. C'est-à-dire que c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la FIV. Et donc, tout est confondu. Et là, les journalistes ne font pas leur job qui est face à des... Enfin, bien sûr,
la question, c'est pour les couples de même sexe. Hein.
La PMA, voilà, c'est ça, il faudrait préciser, mais ça n'est pas fait. La PMA pour les couples de même sexe. Et il y a une espèce de flou dans plein de questions, dans plein d'interventions, et l'utilisation de ces sigles va dans ce sens-là. Et on a le sentiment qu'il n'y a pas le désir de faire une pédagogie de ces questions qui sont lourdes, qui sont compliquées. Et là, que les médias, et vous le disiez sur les questions qui sont posées aux politiques, sont beaucoup plus intéressés par la bagarre, le jeu entre les hommes politiques plutôt que par les questions de fond.
Est-ce que pour vous, c'est lié au fait que sur ces sujets-là, on n'est pas dans des clivages politiques classiques?
Alors, c'est sans doute, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le gouvernement abandonne cette loi sur la famille, c'est que les clivages se font à l'intérieur même des familles et on n'a pas les médias sont un peu on le voit bien pour la ministre qui est plutôt favorable à la PMA pour le couple de même sexe alors que probablement le président de la République ne l'est pas. Les socialistes sont plutôt favorables à la PMA pour couple de même sexe mais pas extrêmement favorable. Alors on est dans les nuances, ce qui rend difficile le travail de journaliste, c'est-à-dire qu'en général c'est oui ou non, tandis que là c'est plutôt oui, plutôt non.
Mais ça veut dire que les médias sont embêtés, savent pas faire quand on n'est pas face à un clivage politique classique.
Et en France, on explique tout par le clivage droite-gauche. Et quand il n'y a pas le clivage droite-gauche, alors là, il y a une petite difficulté pour communiquer.
Alors, je sens que nos invités ne sont pas d'accord. Allons-y, Cécile Prieur, Le Monde.
Je suis un peu étonnée de la manière dont le débat tourne, puisque en réalité, je l'ai dit au début de l'émission, mais je le redis, il n'y aurait pas eu une telle couverture médiatique s'il n'y avait pas eu la séquence précédente. Le fait que le gouvernement a retiré la loi famille a comme effacé ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est pourtant que la semaine dernière. C'est-à-dire une énorme polémique autour de ce qui se passe à l'école, autour de ce fameux ABC de l'égalité, beaucoup, énormément de mensonges professés par l'extrême droite qui donc, a diffusé tous ces mensonges de façon à pouvoir fonder sa journée de retrait de l'école. Et c'est à ce moment-là que les journaux, notamment les sites et tant d'autres, ont commencé à rentrer dans la bagarre sur le mode décryptage, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que les études de genre, ce n'est pas la théorie du genre, qu'est-ce que c'est que la baisse de l'égalité, pourquoi, etc., pourquoi c'est faux que ceci, que cela. Et donc c'est dans ce contexte, qui était déjà un contexte très lourd, qu'est arrivée la manif pour tous. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de façon cohérente avec ce qu'on avait fait précédemment sur la manif pour tous, de faire un live tweet, et un live total de cette manifestation. Donc c'était évident qu'on était dans un moment politique. Et on n'est pas que dans des familles qui s'opposent à la PMA, à la GPA. Parce qu'en fait, ce slogan est arrivé après. En réalité, on est dans un moment politique. Comment ce groupe de la Manif pour tous essaye de se structurer politiquement pour ensuite peser. Et donc c'est pour ça que ça avait une importance aussi très importante, au-delà de est-ce que je suis pour ou pas la PMA.
Marine Lamoureux et Thierry Arnaud, sur la question soulevée par Isabelle Verramasson, c'est-à-dire de la capacité ou de la difficulté des médias à traiter d'un sujet de société quand il ne recouvre pas un clivage politique classique.
Oui, alors là, moi, je ne me reconnais pas du tout. Et on pourrait être un des journaux les plus en difficulté, là, sur ces questions-là, parce qu'on tient une ligne modérée depuis le début de toutes ces séquences. On a fait un travail énorme de décryptage. Alors évidemment, la presse écrite, La Croix, c'est pas BFM, c'est pas... Voilà, les gens, évidemment, on n'a pas une diffusion comparable, évidemment. Mais le travail de décryptage, il est fait. Si les gens ont envie de s'informer sur ce que c'est que le genre, si les gens ont envie de s'informer sur ce que c'est que les conséquences en termes de filiation, ces documents existent. On a fait des 8 pages, on a fait des 4 pages, on a énormément travaillé. Alors, voilà, quand j'entends qu'on n'a pas fait notre boulot de décryptage, moi, ça, je ne peux pas l'entendre.
Oui, mais en même temps, prenons les...
Prenons les gens la presse écrite.
Prenons pas la presse écrite.
Merci
mais prenons,
pour cette...
Voilà, alors, on va aller sur l'audiovisuel. Alors, allons sur l'audiovisuel, justement.
Essayons de ne pas tout mélanger, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites que, franchement, je ne peux pas laisser passer. Dire que la façon dont on couvre cette manif, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne les chaînes d'infos, pour ce qui concerne BFM TV, est sans nuance, de mon point de vue, n'est pas acceptable. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, il y avait des historiens, il y avait des spécialistes, il y avait des éditorialistes. On a parlé du fond, on a parlé du divorce, on a parlé du statut des beaux-parents, on a expliqué ce qu'il y avait dans le projet de loi, on en a fait des sujets, on en a fait des reportages. Donc on peut choisir de retenir les minutes de notre couverture où on est en direct dans la manif pour dire la seule chose que fait BFM, c'est ouvrir grand les écrans sur la manif. Ce n'est pas une façon que je considère comme acceptable de restituer notre travail. On est dans la caricature. Moi, ma préoccupation quotidienne dans cette chaîne d'information, c'est de combattre la caricature. Et donc, de ce point de vue-là, on fait des efforts quotidiens qui se voient à l'antenne, que vous peut-être ne jugez pas suffisants, mais de là à dire que lorsqu'on parle de PMA...
La question que je posais, ce n'est pas du tout un procès à BFM TV, hein, c'est global.
Non, pas du tout
dans mon esprit, non, du tout.
Et après, voilà, des débats. Alors, il y a effectivement le format de l'émission politique classique, où on reçoit un politique, on lui donne la parole, mais des débats sur ces sujets-là, encore une fois, regardez la programmation de la dernière semaine. On a des cases de débats, on a des invités chez Rotel Krieff à 19h, chez Olivier Truchot à 18h, on a des débats tous les jours à 23h. On pose ces sujets-là et on en débat aussi sur les chaînes d'information.
Cécile Prieur du Monde, Marine Lamoureux de La Croix et Thierry Arnaud de BFM Télé sont ce matin dans Le Secret des Sources. Comme toujours, vous réécoutez, vous téléchargez, vous complétez, vous commentez, vous critiquez sur franceculture.fr.
Si je t'écris aujourd'hui, mon enfant de ma nuit, c'est pour que tu saches que si j'ai tout perdu, comme un chien je me suis battu pour mon droit de t'aimer, comme un papa peut aimer. Ils m'ont laissé errer sans toi, dans ma colère, ils ont piétiné encore une fois le droit des pères. Ils nous ont posé, toi et moi, sur le bord comme des serpillères. Et merde au droit des pères. Si je t'écris aujourd'hui, c'est que tu dois savoir qu'ils ne m'ont laissé que le droit de hurler ton prénom dans le vent. J'ai perdu la plus importante de mes guerres, te voir grandir tous les jours, mon enfant. Nous sommes des milliers de perles nées dans la poussière, des milliers qu'ils ont jetés dans ce cachot, ce piège à rats, cette misère. Des milliers à pleurer, madame la justice, enlevez vos œillères. Des milliers à mendier notre droit des pères.
Cali, le droit des pères, l'un des sujets qui aurait dû, je ne sais pas quelle formule qu'il faut utiliser, être abordé dans cette loi sur la famille. Isabelle Verramasson, vous êtes toujours avec nous. Il y a une autre facette de cette réflexion sur le rôle joué par les médias dans ce report de la loi sur la famille, une facette peut-être un peu iconoclaste qui, je sens, va être à nouveau irritative pour nos invités. C'est le profil sociologique des journalistes. Il y a un cliché assez répandu sur le fait que les journalistes seraient, je résume, culturellement de gauche. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a eu cette formule à un moment donné. Est-ce que c'est si vrai que ça aujourd'hui sur les sujets de société?
Alors, comme on l'a dit, le clivage droite-gauche sur les sujets de société n'est pas si clair que ça. Et il me semble, moi j'avais été très frappée au moment de l'affaire Polanski, de voir qu'une nouvelle génération de journalistes était finalement plus réticents, moins libérales que leur père, c'est-à-dire la génération de mai 68. Et ça, c'est assez étonnant. En général, les enfants sont plus libéraux que leurs parents. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ce sentiment qu'il doit y avoir des limites dans la société, que tout n'est pas permis, contrairement à ce qu'on disait dans les années 60, m'a semblé tout à fait présent parmi ces journalistes relativement jeunes, ceux qui ont 30, 40, et qui sont donc issus de cette génération très libérale de mai 68. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé à ce moment-là, et je me suis demandé si, au moment de réfléchir sur ces questions de famille, on ne trouvait pas ce clivage entre deux générations, entre les jeunes journalistes et leurs parents.
Donc il y aurait une forme d'anachronisme dans le postulat, les journalistes sont des bobos de gauche, c'est ça que vous voulez dire?
Alors, c'est-à-dire que les jeunes bobos seraient moins libéraux en matière de mœurs, de famille, que les vieux bobos à cheveux longs.
C'est peut-être difficile sur ces sujets-là pour les journalistes de traiter le sujet sans faire totalement abstraction de sa propre histoire personnelle, de son propre point de vue personnel. Et je fais un procès à personne, ni dans un sens ni dans l'autre, en disant ça. Marine Lamoureux, puis Thierry Arnaud.
Je pense que quand on est journaliste, on n'a pas la prétention d'être absolument neutre, objectif. On essaie d'être le plus honnête possible. On essaie de faire son travail en cherchant la contradiction. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment fondamental. On n'est pas des militants. Après, ces sujets sont tellement renvoient tellement au tréfonds, à l'éducation, aux valeurs profondes, que ce serait un leurre de penser qu'on peut absolument s'extraire du contexte dans lequel on a grandi, des valeurs, de la hiérarchie de valeurs. Moi, je traite les questions d'éthique depuis plusieurs années, et je trouve que plutôt que de s'arc-bouter sur un tel a raison, les libéraux ont raison, les conservateurs ont tort ou l'inverse. Je crois qu'il faut surtout voir ces débats comme une hiérarchie de valeurs. C'est-à-dire, je prends le débat sur la fin de vie, par exemple, qui va être là, va nous occuper, je pense, un bon moment, et qui est un débat absolument passionnant et qui n'est pas droite-gauche, vraiment pas droite-gauche. Moi, je trouve ça plus intelligent et plus une grille de lecture plus percutante de dire il y a des gens pour qui la valeur de l'autonomie, la valeur de la liberté individuelle est absolument fondamentale et elle va peut-être passer devant d'autres valeurs. Et en face, des gens qui ont plutôt une éthique de la vulnérabilité, c'est-à-dire eux, ils vont vraiment se soucier de quel impact peut avoir une loi sur l'euthanasie, sur l'ensemble de la population, sur les plus faibles. Et c'est cette hiérarchie de valeurs qui va être un peu différente ou très différente chez les uns, chez les autres. Mais personne n'a raison, personne n'a tort. Donc évidemment, les journalistes, ils ne sont pas hors du monde, ils sont dans ces hiérarchies.
Particulièrement sur ces sujets-là, qui sont quand même très intimes. Enfin, la famille, la filiation, c'est forcément intime aussi.
Évidemment, mais moi qui suis dans un journal catholique et qui ne suis pas catholique moi-même, je suis bien placée pour savoir qu'un des garde-fous, quand même, pour continuer à bien travailler sur ces questions, c'est quand même de chercher la contradiction. Et je trouve que parfois, notre écueil, je me l'applique à moi-même, mais je pense c'est un gros écueil qui nous menace, c'est de ne pas aller suffisamment chercher cette contradiction, ce qui veut dire notamment aller essayer de comprendre des gens qui ne pensent pas comme nous. Et je vois bien, parce que évidemment, nous, on fait attention à la Manif pour tous, on a un traitement qui est parfois plus important que dans d'autres journaux, etc. Je vois bien que dans un certain nombre de médias, on a tendance à leur plaquer une étiquette. Alors, je ne parle pas forcément des leaders, mais je parle des gens qui, à un moment, descendent dans la rue. En fait, c'est un mouvement assez multiforme. Il y a une partie d'extrême dedans, il y a des gens qui sont modérés dedans. Et on a tendance à plaquer une étiquette et on a défini la situation, on a notre grille de lecture. Alors qu'en réalité, notre travail à nous, c'est d'essayer de comprendre même des gens qui ne pensent pas comme nous, n'ont pas la même hiérarchie de valeurs. Et je crois que c'est ça qu'on a à faire en tant que journaliste.
Thierry Arnaud, de la capacité du journaliste à faire abstraction de sa propre histoire.
Moi, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Je voulais juste glisser au passage pour l'anecdote que quand Nicolas Sarkozy dit que les journalistes sont intellectuellement de gauche ou des bobos de gauche, c'est parce que ce jour-là, il est d'excellente humeur ou bien il pense qu'il y a des enfants à l'écoute, il lui arrive d'exprimer les choses de manière un petit peu différente. Je crois que ça... Alors, dans ces sujets-là, cette question se pose de manière particulièrement aiguë, mais elle existe dans toutes les circonstances et quel que soit le sujet que couvre un journaliste. Un journaliste qui va qui suit les affaires de justice et qui va à un procès où on rencontre d'un meurtre épouvantable. Il aura forcément des émotions, il va ressentir quelque chose. Il aura probablement un avis en écoutant les débats sur est-ce que le suspect, la personne qui est jugée, est coupable ou pas. Donc, dans toutes les circonstances et quel que soit le travail du journaliste, quelle que soit la matière sur laquelle il travaille, son métier doit consister à essayer d'avoir ce recul par rapport à la matière qu'il traite. Et je souscris tout à fait au mot qui vient d'être employé à l'instant, cette honnêteté par rapport à ce qu'on voit autour de soi.
Alors, on va rebondir encore sur ce qu'a dit Isabelle Véramasson il y a quelques instants, sur le fait que les journalistes ne seraient pas nécessairement aussi de gauche que d'aucuns veulent bien le croire. On a repéré quand même assez nettement ces dernières années la mise en valeur sur les antennes audiovisuelles d'un certain nombre d'éditorialistes aux positions revendiquées conservatrices. Un exemple simple, c'est Éric Zemmour parlant de la théorie du genre sur iTélé.
Le ministère de l'Éducation nationale les envoie sur la ligne Azur. C'est un site internet. Qu'est-ce qui est écrit ? On prend un tableau et on demande aux enfants de 11 ans, de dire, voilà, je suis né, alors en dessous il y a écrit sexe biologique, je suis déclaré en dessous sexe masculin, sexe féminin, je me sens identité de genre, Nicolas, mais ça n'existe pas, homme, femme, trans déjà c'est intéressant, je me définis homme, femme, homo, bi, hétéro, trans.
Bon, voilà, ces propos, on va le préciser, sont quand même fantaisistes, hein, puisque le ministre de l'Éducation ne renvoie pas sur le site Azur, que ce n'est pas un questionnaire, mais un formulaire d'information, qu'il n'est pas destiné aux enfants de 11 ans, mais aux adolescents de 16 ans. Reste, en tout cas, au-delà de ces propos qui relèvent un peu de l'élucubration, reste qu'on trouve des éditorialistes qui sont revendiqués conservateurs sur un certain nombre d'antennes audiovisuelles, ce qui n'était sans doute pas le cas, et c'est un simple constat, là encore, ce n'est pas un jugement, il y a une quinzaine d'années. Donc, est-ce que, là encore, il n'y a pas une contribution médiatique à un édifice plus conservateur de la société, ou est-ce qu'on est juste dans un reflet? Je sais pas, Cécile Prieur, Thierry Arnaud.
Si ma voix le permet, je pense qu'en fait, on a là le reflet d'un mouvement sociétal profond, qui est que les valeurs se crispent, qu'une partie de la population se crispe sur ces valeurs, que l'extrême droite reprend cette question-là de façon extrêmement organisée. Et Éric Zemmour est coutumier de reprendre certains des propos qui sont véhiculés par Alain Soral, notamment sur son site.
C'était le cas
dans l'exemple que vous avez donné. Et là, on voit bien que l'espace médiatique ainsi que les réseaux sociaux sont devenus un espace de lutte politique et que ces éditorialistes, à mon avis, ne sont plus journalistes, dans le sens où Marine le disait, c'est-à-dire penser contre soi-même, être honnête vis-à-vis de l'information, mais au contraire sont là dans un combat politique.
Oui, moi je considère que je ne fais pas le même métier qu'Éric Zemmour. Je veux dire, chacun, on est dans une démocratie où, dans les limites de la loi, la liberté d'expression est permise. À partir du moment où il joue carte sur table et il ne cache pas ses opinions, pourquoi pas? Mais encore une fois, je considère que son métier et le mien sont deux choses différentes.
En même temps, Cécile Prieur, Le Monde, Thierry Arnaud, BFM Télé, Marine Lamoureux-Lacroix, en même temps, ça pose la question très intéressante toujours de la neutralité. C'est-à-dire, est-ce que sur ces grands sujets de société, les médias n'ont pas aussi vocation à éditorialiser d'une certaine façon, à prendre parti? Est-ce que ça n'est pas aussi, d'une certaine façon, leur rôle? Marine Lamoureux, Cécile Prieur qui...
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, notre rôle à nous, c'est d'essayer de bousculer les gens, d'essayer de les pousser à penser un peu différemment de la manière dont, voilà, spontanément, comme ça, hop, ah oui, tiens, je trouve le match pour tout, c'est bien ou c'est pas bien. Non, mais qu'est-ce qui se joue? Le monde est en train de changer d'une façon vertigineuse. C'est aussi pour ça que les clivages se retrouvent, se brouillent. On est face à des progrès de biomédicaux absolument dingues. Donc la question de la procréation, pour y revenir, elle ne peut pas se traiter d'un revers de la main. Ça a des répercussions extrêmement lourdes. Après, encore une fois, quelles que soient les opinions qu'on a, à mon avis, moi, le rôle du journaliste, ce n'est pas de dire aux gens, pensez comme ça. Voilà, moi, je suis éditorialiste, je pense ça, pensez comme ça. Le rôle des journalistes, c'est de dire, voilà ce qu'on peut vous mettre sur la table. Voilà les arguments. Nous, on a fait un dossier sur la gestation pour autrui, là, mardi dernier, où on s'est posé la question, est-ce que ça peut être éthique? On pose tous les arguments sur la table. Après, les gens, on n'a pas besoin de les prendre par la main, ils réfléchissent par eux-mêmes.
Alors, on va abuser encore de la voix de Cécile Prieur avant qu'elle ne passe à la phase du miel. Non, j'ai quand même envie de vous entendre ce matin, malgré sur ce sujet-là, parce que suite au report de la loi sur la famille, le lendemain dans Le Monde, il y avait à la fois un édito en une qui disait en gros, bon, c'est pas un si mauvais calcul que ça que de reporter. Et puis, d'un autre côté, vous-même, vous signez le même jour, en page intérieure, un autre édito qui disait non, sur les sujets de société, il faut que la gauche avance et il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle soit volontariste. Je résume, mais c'était à peu près ça.
Le papier que j'ai fait n'est pas un édito, c'est un papier d'analyse.
C'est un point de vue.
un point de vue personnel. Donc on a cet espace qui est un espace de décryptage ou de point de vue personnel que le journal nous offre. Alors le journal, en fait, ses règles, c'est que l'information est l'information. L'éditorial engage collectivement et l'analyse est un espace personnel. Et donc moi, je ne suis pas d'accord avec Marine. Je pense qu'au contraire, quand on fait son travail de façon honnête, quand on a mis tous les arguments sur la table, on peut et on doit, et d'ailleurs le Figaro ne s'en prive pas par exemple, donner son avis, affirmer une parole publique. Et nous, c'est ce qu'on a fait l'année dernière sur le mariage gay, après en avoir longtemps discuté. On n'était pas tous d'accord, mais au moins on en est resté au cadre strict de la loi pour la soutenir. Et dans notre organe de presse, en tout cas notre ligne, c'est ça. On pense que c'est notre devoir de soutenir ce genre de projets sociétaux qui ouvrent la société.
Thierry Arnaud, est-ce que la neutralité est illusoire, pour le formuler autrement ?
Elle est difficile. Je pense qu'on peut le faire, mais donner son avis et exprimer les choses de manière honnête. Mais il faut être très, il faut beaucoup réfléchir à la manière dont on le fait. Alors, j'allais dire, c'est presque plus compliqué pour nous à la télévision parce que effectivement, dans un journal, on visualise ce qui est dans la partie éditoriale et ce qui est dans la partie factuelle. On le voit, c'est mis en page, c'est clair, etc. La grande difficulté, c'est qu'il faut à la fois être capable de dire des choses de manière assez honnête et en même temps ne pas compromettre tout le reste de son travail. C'est-à-dire, si vous dites je suis pour la PMA ou je suis contre l'extension de la PMA ou je suis pour l'extension de la PMA, que toute la couverture de toute la chaîne sur le sujet, à partir de ce moment-là, soit jugée à l'aune de votre commentaire et que celui qui vous regarde dise « Ah ben oui, forcément, si le chef du service politique pense que... toute la couverture de la chaîne à partir de ce moment-là va être biaisée. Donc c'est pour nous un exercice particulièrement délicat.
Encore un mot, Marine Lamoureux.
Oui, non, je voulais juste préciser que je ne dis pas forcément qu'il ne doit pas y avoir de ligne. Hein. D'ailleurs, à la Croix, il y a une ligne éditoriale, elle est claire, elle est connue. Simplement, ça me semble important de pouvoir qu'elle s'appuie sur des éléments, des études, des réflexions, des éditoriaux, etc. Et que surtout, elle donne la parole à l'autre. Voilà, moi, je crois que c'est ça qui est important. Après, effectivement, c'est assez subtil, hein, c'est ce que vous dites. C'est comment arriver à la fois à pas penser à la place des gens, assumer ce qu'on est, parce qu'on ne va pas, effectivement, faire croire à une neutralité qui n'existe pas ou qui est compliquée, et en même temps, donner à chacun les éléments pour qu'il puisse réfléchir. C'est assez subtil, c'est vrai.
Comme toujours, le dernier mot dans Le Secret des Sources revient au sourire et au clin d'œil de Yacine Bouzard. Yacine imagine le blues du journaliste politique confronté aux couacs gouvernementaux en Syrie et qui va voir son rédacteur en chef et il n'en peut plus de devoir expliquer tout et son contraire.
Chef, je peux te voir ?
Oui, rentre.
Bon voilà, je veux plus suivre la politique. Là, j'en peux plus, là. Là, c'est tout et son contraire.
Explique.
Ben... Prends la TVA sociale, par exemple. Un jour, je rapporte ça.
Cette mesure n'est pas ciblée, elle n'est pas juste, elle n'est pas efficace.
Le lendemain, j'entends ça.
Certains disent qu'il ne faut pas augmenter la TVA au 1er janvier. Mais certains vous demandent de l'annuler.
Non, Jean-Michel Lapati.
Vous ne l'annulerez pas.
Voilà pourquoi elle est là.
Et j'ai suivi aussi le candidat Hollande.
Le droit de vote des immigrés aux élections locales.
Nous aurons à faire cette évolution.
Et le président aussi.
Sur le droit de vote des étrangers, je n'ai pas soumis ce texte. Parce que je sais d'avance... que l'opposition n'en veut pas.
Mais tu vois, depuis 2 ans, tous, ils me donnent le tournis. Et c'est pas fini.
Vous êtes favorable à la PMA ou pas, Dominique Bertinotti ?
Je vais vous dire, cela ne se fera pas dans l'immédiat. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans...
Avant la fin du quinquennat, c'est possible ?
Je ne sais pas.
Et donc, tu veux quoi ?
S'il te plaît, transfère-moi au service des sports. Je pourrais suivre le PSG. Là, au moins, le résultat, on le connaît. Il n'y a jamais de surprise.
Yacine Bouzard avec la complicité de Cyril Baer, Cécile Prieur, Thierry Arnaud, Marine Lamoureux, Isabelle Véramasson, Éric Chavreau étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Merci à tous. Les médias ont-ils contribué à abattre la loi sur la famille ? Vos commentaires sont les bienvenus, comme toujours, sur le site sur franceculture.fr. Et comme certains d'entre vous, parfois c'était le cas la semaine dernière, s'étonnent de ne pas voir leurs commentaires publiés, sachez tout de même que généralement, on valide tous les commentaires, sauf ceux qui ont un caractère diffamatoire ou raciste. Et n'oubliez pas, si vous avez raté le direct, Le Secret des Sources est évidemment en réécoute et en podcast, là aussi, sur franceculture.fr. Dans quelques minutes, après le journal de Sarah Petitbon sur France Culture, réplique ce matin l'amitié de Stéphane Zweig et Joseph Roth. Alain Finkielkraut reçoit Pierre Deus et Philippe Lançon. Prenez soin de vous.
franchement, je ne peux pas laisser passer. Dire que la façon dont on couvre cette manif, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne les chaînes d'info, pour ce qui concerne BFM TV, est sans nuance, de mon point de vue, n'est pas acceptable. Il y avait des historiens, il y avait des spécialistes, il y avait des éditorialistes. On a parlé du fond.
On a le sentiment qu'il n'y a pas le désir de faire une pédagogie de ces questions qui sont lourdes, qui sont compliquées. Et là, que les médias, et sur les questions qui sont posées aux politiques, sont beaucoup plus intéressés par la bagarre, le jeu entre les hommes politiques, plutôt que par les questions de fond.
On tient une ligne modérée depuis le début de toutes ces séquences. On a fait un travail énorme de décryptage. Alors évidemment, la presse écrite, La Croix, c'est pas BFM, c'est pas... Voilà, les gens, évidemment, on n'a pas une diffusion comparable, évidemment. Mais le travail de décryptage, il est fait.